La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
En croire, la presse britannique Theresa May a passé un très mauvais moment au sommet européen de Salzbourg, mais le pire est encore à venir maintenant qu'elle est rentrée au Royaume-Uni.
Oui, Theresa May humiliée dans l'embuscade qui lui a été tendue à Salzbourg. Voilà la situation résumée par le Guardian ce matin. On parle bien sûr des négociations sur le Brexit qui se sont terminées en eau de boudin, il faut bien le dire, hier quand les 27 ont déclaré que les propositions de Londres réunies dans l'accord dit de Chequers n'étaient tout simplement pas recevables. À une semaine du congrès de son parti conservateur britannique, très divisé, on le sait, sur le sujet, la première ministre est donc mise sur la défensive par les Européens, renvoyée chez elle en état de très grande fragilité politique. Les Européens ont tué l'accord de Chequers, ils ont poignardé Theresa May et ont pris soin de remuer le couteau, analyse le Daily Telegraph ce matin en une. Et plus largement, tous les titres de la presse britannique s'accordent sur un point, c'est Emmanuel Macron qui a convaincu les 26 autres de ne pas laisser la première ministre quitter Salzbourg avec des mots d'encouragement comme c'était prévu. Alors pour détendre l'atmosphère, on lira dans le Financial Times cette chronique en forme de dialogue imaginaire et humoristique qui met en scène Theresa May pendant le sommet en train d'essayer de vendre son Brexit à Macron, Merkel et les autres pour les amadouer. Elle leur propose de renommer le rocher de Gibraltar par exemple, rocher Pedro Sanchez pour le chef du gouvernement espagnol, la frontière irlandaise ligne Macron, etc. Oui, car nous explique l'auteur de ce texte, Henry Mans, les Polonais, eux, ont bien réussi à convaincre le président américain d'installer une base militaire chez eux en lui proposant de la baptiser Fort Trump.
Et puis Camille, en Ouganda, l'opposant vedette Bobi Wine est rentré au pays hier malgré la répression et ses accusations de trahison lancées contre lui.
Il avait quitté son pays pour les États-Unis à la mi-août après avoir été arrêté, son chauffeur abattu, lui emprisonné et torturé selon ses dires pendant 2 semaines. Son retour donc hier, acclamé par la rue ougandaise, s'étale dans la presse d'Afrique de l'Est ce matin. Le Daily Nation kényan nous rappelle le CV de l'homme aux multiples visages. Député d'opposition, devenu depuis un an la bête noire du président ougandais Yoweri Museveni, Robert Kyagulani avait d'abord conquis le cœur de son pays sous le nom de scène de son excellence Bobi Wine, alias aussi le président du ghetto, star de la musique populaire ougandaise version reggae conscientisée.
This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind. Wako ebinyi kirizo vola mubrafe, na polici tumala ke dembe diafe.
Mais hier, ce n'est pas le retour du chanteur, mais bien celui de l'homme politique qui était attendu par ses partisans et aussi par un impressionnant dispositif policier. C'est The Observer depuis Kampala qui nous raconte la suite. Les journalistes et la foule tenus à l'écart de l'aéroport par des barrages routiers. Bobi Wine arrêté dès sa sortie de l'avion, conduit à un commissariat. Il est quand même accusé de trahison par la justice ougandaise. La tension qui monte dans les quartiers populaires et finalement ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Bobi Wine est seulement escorté par la police vers son domicile pour éviter tout débordement. Ça ne l'a pas empêché de s'adresser à ses supporters massés devant le commissariat où il avait été emmené, monté sur une voiture, appuyé sur une canne. Il leur a dit qu'il était revenu pour se battre, pour porter leur volonté de changement. Car le chanteur devenu député n'a jamais caché ses ambitions présidentielles, nous rappelle le correspondant du Guardian en Ouganda, selon qui, pour vraiment inquiéter le vieux président Museveni, Bobi Wine devra encore séduire un Ouganda majoritairement rural quand ses électeurs à lui sont plutôt dans l'âge jeunesse urbaine, mais conclut Jeune Afrique, en faisant arrêter, emprisonner et fuir Bobi Wine aux États-Unis avant de le laisser revenir en héros. L'actuel chef de l'État ougandais a fait de l'ex-chanteur son principal opposant.
Et en Ukraine, Camille, les paroisses orthodoxes seront placées face à un choix cornélien depuis le grand divorce acté il y a une semaine entre le patriarchat de Moscou et celui de Constantinople.
Les deux grands pôles de la foi orthodoxe dans le monde qui ont rompu les liens vendredi dernier sur fond de désaccords profonds sur l'Ukraine, justement. Des tensions qui sont le miroir de celles plus politiques qui divisent l'Ukraine. Ça, c'est l'analyse de The Economist qui nous rappelle les faits. En pleine guerre attisée dans l'Est par les Russes, le pouvoir ukrainien à Kiev a réactivé l'un de ses vieux projets, celui d'établir une église orthodoxe indépendante du patriarcat de Moscou, considérée comme un agent d'influence du Kremlin. Le patriarche russe Kirill y a vu un chiffon rouge et, décision historique, a rompu donc ses liens avec Constantinople pour le coup, soutient l'émancipation ukrainienne. Du coup, nous explique ce matin le journal Ukrainskaya Pravda à Kiev, les paroisses du pays vont devoir prêter allégeance à l'un des deux patriarcats, choisir leur camp. Le chef de l'église ukrainienne est donc indépendante de Moscou, le patriarche Philarète se dit confiant sur le fait que, selon lui, les deux tiers des églises actuellement dominées par Moscou vont prêter allégeance à Constantinople. Le souci, reconnaît-il, c'est que dans les paroisses rattachées au patriarcat de Moscou, les popes et dans leurs prêches montent les fidèles contre l'Ukraine. C'est ça qui crée des tensions qui pourraient même conduire à des violences, avertissent de leur côté les autorités religieuses à Moscou, citées par Radio Free Europe. Si le patriarcat de Moscou est privé de ses droits, alors on peut tout imaginer, nous explique-t-on à Moscou. Par exemple, que les partisans du grand schisme ne veuillent chasser les moscovites de très prestigieux monastères, de la Lavra de Kiev ou celle de Potchaïf dans l'ouest ukrainien. Plus que dans les petites paroisses des villages, elles sont bien là, les pommes de discorde, ces lieux prestigieux et touristiques revendiqués à la fois par Kiev et par Moscou, qui pourraient devenir, toute proportion gardée, l'équivalent de la Crimée pour la foi orthodoxe.
Merci beaucoup, Camille.